Bonjour à tous, bonjour à toutes, à ceux dont je n'ai pas pu dire bonjour. Ce n'est pas dans l'ordre habituel des choses. En général, c'est moi qui passe avant et c'est les plus anciens qui passent après. Mais aujourd'hui, le Seigneur a voulu que je puisse apporter ce message, vu qu'effectivement, ce n'est pas l'ordre habituel. Je vais vous demander d'eau. Priez avec moi. Dieu de gloire, nous voulons encore nous soumettre à tes pieds. Parler de toi, parler de ta parole, ce n'est pas question de méthodologie, ce n'est pas question de savoir personnel, mais c'est question de ta grâce, de ta présence et Saint-Esprit de Dieu. C'est toi la vraie méthodologie, c'est toi qui es capable de toucher nos cœurs et de nous changer. C'est toi qui es capable de nous expliquer la parole du Seigneur et de la faire asseoir dans nos cœurs. Je me soumets à tes commandements, Saint-Esprit de Dieu. J'implore ta présence pour que tu puisses me guider, tu puisses me conduire. Que seulement ce qui te glorifie, Seigneur Jésus, sorte de ma bouche, que mes propres pensées ne sortent pas. Ce qui n'édifie pas ton peuple, ne sortez pas de ma bouche. Nous voulons que toi, Sœur, tu sois glorifié à travers ta parole et que tes enfants puissent s'honorer de ce qui vient seulement de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Nous lirons à partir du verset 23 jusqu'à la fin de ce chapitre. Matthieu chapitre 18, verset 23 jusqu'au verset 35. C'est une parabole de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui parle. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait 110 000 sacs d'argent. 10 000 sacs d'argent, pardon. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonnant de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosternant devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remet la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, « Prends patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il aille payer ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus conclut, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Ici s'arrête notre lecture. À qui le Seigneur Jésus adresse cette parabole? Dans le contexte, Matthieu l'évangéliste place ce message dans quel contexte veut-il nous parler? On va essayer de situer ce texte quand on essaie de regarder tout le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Ce chapitre porte sur la vie de disciples. C'est Jésus lui-même qui s'entretient avec ses disciples. Il leur donne différentes instructions pour éclairer ce qui devait être les échanges relationnels, des rapports entre les membres d'une communauté croyante. Il traite notamment la question du pardon entre les disciples dans une église locale. Donc, c'est un message pour les gens qui partagent la foi, les disciples. Jésus ne parle pas aux étrangers ni à la foule, il est juste avec ses disciples qui vivent leur foi ensemble. L'entretien de Jésus commence par une question des disciples de savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus leur répond que pour avoir accès à son royaume, il faut d'abord reconnaître son insignifiance à l'image des petits enfants, avoir l'humilité à l'image d'un petit enfant, avoir l'humilité, comme nous parlait la semaine passée Eric, d'un Seigneur qui lave les pieds de ses disciples. Au verset 6, le Seigneur poursuit par une sévère mise en garde à ceux qui maltraitent et scandalisent les petits qui croient en lui. Il est question ici des croyants vulnérables, symbolisés par la brebis perdue. Aussi plus faibles qu'ils puissent paraître, ces croyants dont les anges se tiennent sans cesse en présence du Père céleste dans les cieux, ils ont du prix aux yeux de Dieu. Attention, nous dit la parole de Dieu, de ne pas mépriser ni rejeter un seul de ces brebis pour leur éviter l'égarement. On doit les protéger pour leur éviter qu'ils s'égarent. À l'image du brebis perdu, du berger qui laisse 99 brebis et fournit ses efforts pour aller chercher une qui est perdue, Jésus rappelle que la volonté du Père n'est qu'aucun des croyants vulnérables ne périsse. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à imiter le Père céleste en accueillant avec joie et humilité les croyants les plus vulnérables parmi nous. À travers les versets 15 à 20, Jésus apporte la réponse aux problématiques du pardon entre les frères dans la communauté. Le Seigneur Jésus donne les indications concrètes et précises sur le processus de rétablissement par le pardon envers un frère ou une sœur qui aurait péché contre la communauté et du coup, s'est mis en danger. Le pardon est nécessaire pour pouvoir gagner le frère ou la sœur égarée et permettre son rétablissement parmi les siens et sa communauté. verset 21 au verset 22, c'est la question de Pierre de savoir combien de fois doit-on pardonner un frère ou une sœur qui a péché. Jésus répond que le pardon entre frères et sœurs n'est pas une question de calcul, mais qu'il faut accorder le pardon à ton frère de façon illimitée et sans compter. On arrive alors à notre passage du jour. Vous comprenez très bien qu'il s'agit de questions du pardon entre les disciples, pardon entre nous. Dans un des livres sur les paraboles d'aujourd'hui, du docteur Djabala, il a intitulé ce passage « Le serviteur impitoyable ». Moi, dans le texte, le titre que j'ai choisi, j'ai choisi « Disciple de Jésus ». Toi qui as été gracié, tu dois pardonner. Disciple de Jésus, toi qui as été gracié, tu dois pardonner. Je me basais à la question au verset 33. S'il y a un verset que nous devons garder, c'est ce verset 33. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Ça, c'est la question que le maître pose à son serviteur. Si on essaie alors d'analyser notre passage d'aujourd'hui, donc verset 23 jusqu'au verset 35, on voit bien Jésus qui introduit cette parabole en comparant le royaume des cieux, donc au royaume encore à venir, au roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. C'est un signal pour nous qui attendons ce royaume. Nous aurons des comptes à rendre devant notre roi. Nous aurons des comptes à rendre devant notre roi. Après cette introduction, nous pouvons diviser notre texte en trois parties. Du verset 24 jusqu'au verset 27, il est question d'un serviteur gracié. Le roi lui remet une dette incalculable. Verset 24 jusqu'au verset 32. D'abord au verset 28 jusqu'au verset 31. Le serviteur gracié ne montre aucune compassion à l'égard d'un confrère. Et la troisième partie, c'est du verset 32 jusqu'au verset 34. Le jugement. Le maître châtie le serviteur impitoyable. Première partie, un serviteur gracié. Le roi lui remet une dette incalculable. La somme que le serviteur doit au roi est immense. 10 000 sacs d'argent. La dette est impayable, que la décision du roi n'est autre que la mise aux enchères de tout ce qui lui appartient, y compris sa vie et celle des siens. À vendre le serviteur, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait. Une décision difficile, mais c'est une mesure de justice découlant du fait que le serviteur ne s'est pas honoré son obligation légale de rembourser la dette, et de l'autre côté, le droit du maître de recevoir son dû, son argent. Le serviteur esclave en incapacité de rembourser une telle somme incalculable n'a d'autre recours que de faire appel à la compassion et miséricorde de son maître. Au verset 26, le serviteur se jeta par terre, se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. » Des remarques à ce sujet, la position ou la posture du serviteur qui se prosterne devant son roi montre cet acte d'adoration de l'homme qui adore Dieu. Il se prosterne devant son roi. Derrière ce terme « roi », il y a la référence de notre Dieu, digne de toute adoration. Autre remarque, c'est le serviteur qui promet de tout payer, tout payer. Comme s'il allait avoir des moyens spécifiques, tout d'un coup de payer 10 000 sacs d'argent. Il se place du coup sous le répertoire de la légalité et de sa stricte justice, comme si lui-même se sent capable encore de rembourser une telle dette. Derrière le roi se profile un Dieu et ses exigences absolues, mais aussi Dieu et la possibilité du pardon. Derrière le serviteur, il y a le pécheur et son impossibilité de rembourser sa dette, bien qu'il peut s'illusionner, qu'il peut y arriver. C'est ce qui s'est passé à la croix. Des fois, nous ne réalisons pas ce que Christ a fait. Il était impossible à l'homme de se racheter. La réaction du maître est l'opposé du raisonnement de son esclave. Le roi sait que, malgré la promesse et la bonne volonté, l'esclave ne sera pas remboursé sa dette incalculable. Au verset 27, rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laisse partir et lui remet la dette. Remarquez que dans son geste de compassion, cette compassion immense, le roi remet la dette en totalité sans que le serviteur ait à le demander expressément. C'est par la pure grâce du roi que le serviteur, esclave et sa famille sont libérés et tirés de l'affaire. Dans le livre dont je vous ai parlé, les parabores d'aujourd'hui, son auteur résume ce passage dans ceci, j'ouvre parenthèse, une parenthèse, à une dette infinie, seule suffit une compassion infinie. À une dette infinie, seule suffit une compassion infinie. Je ferme la parenthèse. Et notre auteur, Jean Jusmutein, professeur émérite du Nouveau Testament de la faculté de théologie à l'université de Zurich, il a écrit aussi un livre sur ce passage. Et il résume cette parabole dans ces termes, j'ouvre encore une parenthèse. Dans le geste du roi se manifeste le contenu central de l'Évangile. Dieu prend une initiative totale, totalement inattendue et libératrice qui permet aux croyants de passer d'une culpabilité devenue fatalité à une vie entièrement nouvelle. Je ferme la parenthèse. Nous arrivons alors à la deuxième partie de notre passage, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31, le serviteur gracié qui ne montre aucune compassion à l'égard d'un confrère. Verset 28, une fois sorti, le serviteur gracié, une fois sorti, à peine sorti du palais royal, le serviteur gracié rencontre un de ses compagnons de service. Remarquez que ce n'est pas un étranger qu'il rencontre, non, c'est un compagnon de service. C'est un confrère, socialement sur le même pied d'égalité avec lui. Il lui devait combien ? Il ne lui devait que 100 deniers. Quelque part, j'ai vu qu'on dit que c'est 600 000 fois inférieur des 10 000 sacs d'argent, 100 deniers, une dette presque insignifiante, l'équivalent de 10 jours de travail pour un ouvrier agricole de l'époque. Réaction. C'est pas par hasard qu'on marque au verset 28, une fois sorti, à peine sorti du palais royal. Donc ici, on n'est pas dans l'oubli. C'est pas quelqu'un qui a été pardonné il y a 10 ans qui oublie. Non, c'est quelqu'un qui sort chez le roi dont on vient de gracier 10 000 sacs. Sa réaction, notre serviteur gracié devient impitoyable. J'ai essayé de chercher les adjectifs qui correspondent à ce mot impitoyable et vous choisirez celui que vous pouvez coller sur ce monsieur. On nous dit cruel, inhumain, sans pitié, sans indulgence, très sévère, endurci, insensible, intraitable, inflexible, féroce, acharné. Il attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler. Son compagnon tombe à ses pieds en le suppliant. Prends patience envers moi et je te payerai. Cette supplication est formulée dans les mêmes termes qui est ceux utilisés par le serviteur gracié devant le roi. Juste les mêmes termes que lui aussi venait d'utiliser. Mais l'autre, notre serviteur gracié, ne voulut pas et alla le jeter en prison en le condamnant de payer tout ce qu'il devait. Un parallélisme entre nos deux individus, il y a le serviteur du roi et son compagnon de service. En matière de somme, l'un doit 10 sacs d'argent, l'autre 100 deniers. La réaction, le roi décide qu'ils vont vendre et le serviteur, sa femme et ses enfants. Et comment va réagir le serviteur envers son compagnon? Il l'attrapa, commença à l'étrangler. On constate que la requête qu'ils formulent les deux est presque la même. Le serviteur dit au roi, « Prends patience envers moi, je te payerai tout. » Et son compagnon lui dit, « Prends patience envers moi et je te payerai. » Et la différence se trouve dans la réponse. Le roi, ému de compassion, lui remet la dette à notre serviteur impitoyable, mais de l'autre côté, il refuse de patienter et fit jeter son compagnon de service en prison. Et pourtant, le serviteur impitoyable à qui le roi venait juste de remettre sa dette n'aurait aucune pitié ni indulgence envers son compagnon de service et décida de le condamner. Au verset 31, on nous rapporte l'indignation des autres compagnons de service face à la dureté de cœur manifestée dans son comportement révoltant d'un des leurs. Ils ont pris le courage et sont allés le signaler au maître. Oui, je pense que devant l'injustice, parfois on doit prendre le courage de s'indigner devant le maître, s'indigner devant le Seigneur. Même si des fois on ne peut rien, mais dans la prière on peut grand-chose. S'indigner lorsqu'on voit une telle injustice. Alors pour cette partie, je me suis posé quelques questions que je voudrais bien vous partager. Quelle sorte de relation dont je mène envers mes frères et sœurs en Église, Ce passage nous rappelle que c'est l'histoire des deux frères. Ce ne sont pas des étrangers. C'est deux personnes qui travaillent ensemble dans une même communauté. Dans ma communion fraternelle, mon amour est-il vrai, sincère et le même pour tous? C'est la question que je me suis posée. Parce que quand on regarde la réaction de ce serviteur impitoyable et comment il a réagi envers son frère, on comprend très bien qu'il n'y avait pas d'amour. Il y a seulement l'amertume, même injustifiée, parce que quand on regarde ce que le roi venait de lui pardonner, ce que lui accuse l'autre, on voit que ce n'est pas question seulement de ses sans deniers, mais c'est juste une haine injustifiée. Il n'y a pas d'amour. Alors je me suis posé cette question dans ma communion fraternelle. Mon amour est-il vrai, sincère et le même pour tous? Dans ma manière d'agir, n'y a-t-il pas des agissements qui étranglent mes frères et sœurs, peut-être même sans que je le sache? C'est trop facile que nous puissions nous indigner à dire ce qu'il a fait est horrible. Il a sauté sur son frère, son confrère, il l'a pris à la gorge, il a commencé à l'étrangler. Oui, le message est pour nous qui vivons dans la communauté. Faisons attention que je ne t'étranglais pas, même sans le savoir, que l'Éternel m'en épargne, mais que je veille sur toi. Je t'apporte l'amour, je t'apporte le pardon, parce que le Seigneur m'a pardonné. Le troisième point, c'est le jugement. À partir du verset 32 jusqu'au verset 34, le jugement. Le maître châtie le serviteur impitoyable. Le maître est mis au courant du comportement de son serviteur, le fait comparaître immédiatement devant lui. Dans sa colère, le maître condamne son méchant serviteur qui avait pu bénéficier d'un acquittement tout tard sans agir de même vis-à-vis de son confrère. Et la sentence est très sévère. Le maître n'en revient pas au verset 33. Et je pense que cette question devrait être la nôtre. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Cette question devrait nous animer. Chaque fois que la colère ou autre sentiment monte dans nos cœurs, on devrait se rappeler cette question. Oui, le Seigneur nous a pardonné énormément. L'immensité de la compassion du Maître va se transformer en un jugement sévère et irrémédiable envers le serviteur impitoyable. Et son Maître est irrité au verset 34, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Un certain Dan Otto Via a écrit aussi sur cette parabole. Il le résume en ces termes. Recevoir sans donner, c'est se détruire soi-même. Recevoir, au verset 32, sans donner de retour au verset 33, c'est se détruire soi-même. Un enseignement pour nous tous. De quoi le serviteur gracié impitoyable est-il accusé? Que l'accuse le roi? Il est accusé et condamné parce qu'il a méprisé la grâce de son maître à l'image de ce que l'Éternel a fait pour nous. Oui, à peine sorti d'un jugement qui devrait le condamner toute sa vie et toute sa famille, à peine sorti, aussitôt sorti, il a directement attaqué son frère. C'est qu'il a méprisé la grâce de son maître. Il est condamné parce qu'il a bénéficié de la miséricorde de son maître sans l'exercer à l'égal de l'autre membre de sa communauté de foi. Il est condamné pour son manque d'amour et de respect envers son compagnon de service. Et la conclusion de Jésus au verset 35 doit nous alerter, nous aussi. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ce n'est pas n'importe quel pardon. C'est pardonner de tout son cœur. Un père qui pardonne à son enfant, un enfant qui pardonne à son père, un frère qui pardonne à un frère, c'est ça qui fait vivre la communauté. L'amour dont nous avons reçu, nous a témoigné Christ à la croix, nous oblige à pardonner. Ce n'est pas une option, c'est une obligation que nous avons. Ça ne veut pas dire que je dois rester dans mon comportement indigne pour faire du mal aux autres, non. Ce pardon doit m'amener également à la repentance. Le fait que les autres me comprennent m'offre l'amour dans mes faiblesses doit me pousser à me repentir, à réparer. Et de retour, nous aussi nous devons alors accorder le pardon. Ce n'est pas un pardon sous condition, non. C'est un pardon comme le Christ l'a fait pour nous. Quelques mises en application de ce message. Ce passage nous exhorte à pardonner comme Dieu pardonne. Il nous rappelle que, étant disciples et serviteurs du Christ, nous sommes au bénéfice de l'immensité de la miséricorde de Dieu. Dans sa grâce infinie, Dieu nous accorde son pardon et efface nos dettes incalculables qu'aucun d'entre nous n'aurait pu rembourser. La miséricorde de Dieu a été manifestée dans le ministère de Jésus, c'est ce que nous avons célébré dimanche passé. Lui, l'agneau de Dieu qui rachète les péchés de tous ceux qui croient en lui. Cette miséricorde reste accessible à tous ceux qui la cherchent. Jean, chapitre 3, verset 16, qui nous a été cité également dimanche passé. L'amour de Dieu manifesté à travers le monde. Nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pour le disciple, la liberté acquise en Christ est une source d'obligation, celle d'exercer à son retour la miséricorde et la réconciliation avec ses confrères dans la communauté croyante. Désormais, celui qui est en Christ est jugé selon sa capacité d'aimer et de pardonner son prochain. Parce que la misère du croyant a fait l'objet de l'amour de Dieu, à son retour, le croyant doit être touché par la misère de son prochain et lui pardonner. C'est un pardon de tout cœur, motivé par un amour sincère, à l'image de ce que Christ a fait pour nous. Jésus était sincère lorsqu'il a été à la croix. Il était sincère pour toi et moi. Il était habité, motivé par l'amour qu'il a envers toi, qu'il a envers moi. L'assemblée des croyants ne vit que par le pardon réciproque entre ses membres. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ, nous dit Éphésiens chapitre 4, verset 32. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Souvenons-nous qu'il y aura un jugement et un châtiment pour ceux qui auront méprisé le pardon reçu du Seigneur Jésus et auraient refusé de pardonner leurs confrères. Ils seront jugés sévèrement, ceux qui étranglent et méprisent leurs confrères. C'est un appel à nous surveiller. Chez nous, dans mon pays d'origine, on dit que là où il y a des vaches, ils ne peuvent pas vivre sans se cogner les cornes, parce qu'ils vivent ensemble. Mais il faut réparer. Il faut que je me surveille. Il faut que je sois animé par un amour de l'autre. Il faut que tu sois animé par un amour de l'autre. Un amour sans limite. Oui. Pas un amour sélectif, non. Hier, en méditant sur cette parole, j'étais dans ma douche et je me suis rappelé le message que Jésus nous a dit. Je vais vous préparer des places au ciel, des maisons, c'est une promesse. Alors je me suis dit, tiens, est-ce que j'aurai un choix de où je vais habiter au ciel? Je n'y crois pas. Le Seigneur va me donner ce qu'il a prévu pour moi. Que m'arrivera alors s'il me place dans un quartier où je dis, tiens, je ne vais pas, mon entourage, Seigneur, j'ai jamais habité en Amérique du Sud. Est-ce que j'aurai le choix? Est-ce que j'aurai le choix de dire, Seigneur, j'ai jamais habité chez les Chinois? Non. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on doit se préparer de le vivre ensemble au ciel. Le vivre ensemble au ciel commence par ici. Je ne crois pas qu'il y aura des classes, clans, non. Je pense qu'il y aura l'amour, la joie de célébrer le Seigneur ensemble. Et c'est ça qui devrait nous animer. Commençons à nous exercer ici sur terre. Nous devons nous pardonner de tout cœur à l'occasion des offenses, petites, graves, commises contre nous dans la communauté des disciples. Sinon, nous aurons des comptes à rendre à notre Père Céleste. On revient encore à cette question qui est au verset 33. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. J'aimerais bien que cette question me poursuive chaque fois que j'ai un acte à poser devant un frère ou une sœur. Nous devons pardonner. Nous devons avoir bonté et miséricorde envers les autres. La misère des autres, celui qui est dans une position de faiblesse, doit être la mienne, parce que Christ a eu pitié de moi lorsque j'étais un pauvre pécheur. Ce n'est pas mon rôle de condamner, non. Je suis appelé à apporter l'amour, à soigner celui qui est blessé. Oui, à manifester la compassion. Je termine par le verset 5, le verset 1er du chapitre 5 aux Éphésiens. Une exhortation pour nous tous. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Dieu de gloire, nous voulons te remercier. Te remercier parce que tu as été le premier à pardonner dans nos misères tous. Tu as eu miséricorde et pitié. Tu n'as pas voulu qu'on meure dans nos péchés. Tu nous as accordé ton pardon par ton amour. De retour, nous voulons, Seigneur, se soumettre à toi. En tant que tes disciples, Seigneur, nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu sèmes ton amour dans nos cœurs. Cet amour qui dépasse tout. Cet amour qui ne voit que toi dans l'autre. Cet amour qui partage les misères des autres. Oui, Seigneur. Cet amour, là où puise le pardon facilement, ce pardon qui répare, cet amour qui crée l'union, la cohésion, une bonne unité dans une communauté des croyants. Bénis-nous, Seigneur. Enseigne-nous à pardonner comme tu pardonnes et que ta grâce nous accompagne en toutes choses. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen.